L'histoire de Merlin l'Enchanteur, chapitre 34. Le siège périlleux. Joseph repartit pour prêcher avec Joséphée et sa parenté, et longtemps tout alla bien pour eux. Mais il advint que Dieu leur envoya toutes sortes de maux, à cause d'un mauvais péché que faisaient beaucoup de leurs compagnons, et qui était luxure, sans raison. Un jour, Joseph s'agenouilla devant le Graal et se mit à prier en pleurant. Lors, il entendit la voix du Saint-Esprit qui lui dit « Joseph, souviens-toi que, chez Simon, quand je dis qu'avec moi mangeait et buvait celui qui me trahirait, Judas se retira un peu en arrière, et plus jamais il ne s'assit en compagnie de mes disciples. En souvenir de la scène, tu dresseras une table, et les tables mises, tu y placeras au centre le vase qui contient mon sang, que tu couvriras d'un linge. Tu t'assoiras à la table et tu inviteras Joséphée à s'asseoir à ta droite. Mais tu verras qu'il s'éloignera de toi, de manière à laisser une place vide qui signifiera celle que Jésus-Christ occupa le jour de la scène. Et elle demeurera vide jusqu'à ce que le Sauveur revienne la prendre, lui-même, ou bien celui qui l'enverra. Convie ta parenté. Tu leur diras que s'ils ont bien cru au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et observé les commandements, ils peuvent avoir part au repas. Sinon, ils ne pourront même s'approcher. » Ainsi fut fait, et tout se passa comme la voix l'avait dit. La table fut pleine, hors l'espace entre Joseph et Joséphée. Et désormais, ceux qui y purent avoir place chaque jour sentirent une douceur délicieuse et l'accomplissement de leur cœur. Mais les autres, qui étaient forcés de rester debout, n'éprouvaient rien que la faim. À quoi l'on connut qu'ils étaient les pécheurs. Or, parmi eux, il en était un du nom de Moïse, faux, déloyal, décevant et luxurieux à merveille. Et il pleurait piteusement, jurant qu'il était sage et consciencieux, suppliant Joseph d'avoir pitié de lui et de permettre qu'il eût sa part à la grâce du Graal en s'asseyant à table. Alors Joseph se prosterna devant le saint vase et pria Jésus-Christ notre Sauveur. Après quoi il dit « Si Moïse est tel qu'il paraît, qu'il vienne. Nul ne lui peut ôter la grâce. S'il est autrement, qu'il garde d'approcher. » Car, lorsqu'un trompeur veut duper autrui, n'est-il pas réjouissant que le trompé dupe le trompeur ? Mais Moïse répondit qu'il ne redoutait rien, et quand tous furent autour de la table, comme toutes les places étaient prises, il vint hardiment s'asseoir au siège périlleux. Aussitôt la terre s'ouvrit et l'engloutit comme traître, puis elle se referma si étroitement qu'il ne parut plus qu'elle se fût écartée. Ainsi ceux qui étaient de bonne vie vécurent du Saint Graal, mais les autres se nourrissaient comme ils pouvaient. Un jour, la compagnie entra dans une contrée déserte et gâtée où ils ne purent rien découvrir à manger. Joséphée dit à son plus jeune frère, Alain le Gros, d'aller pêcher dans un étang proche. L'enfant jeta le filet et ne prit qu'un seul poisson. Pourtant Joséphée ne voulut pas qu'il recommençât. Il s'agenouilla devant le Graal et y demeura longtemps en prières et oraisons. Alors notre sire fit un grand miracle, car le poisson foisonna de manière que tous ceux qui avaient faim purent se rassasier aussi bien que s'ils avaient eu devant eux les meilleures viandes du monde. Et en mémoire de cela, Alain fut surnommé le riche pêcheur. Chapitre 35. Histoire du Saint Graal. Siméon, Ganaam, Galaad. Joseph, Joséphée et leurs compagnons errèrent tant qu'ils parvinrent dans le royaume des Écossais. Et là, un soir, à souper, tous prirent place à la table du Graal, sauf Siméon et Ganaam, qui n'en purent approcher. Alors ces deux-là désespérèrent, et l'ennemi leur entra au cœur et au corps. Quand tout le monde fut endormi, ils prirent des épées très tranchantes, Puis Ganaam vint couper le cou à tous ses 12 frères, tandis que Siméon frappait son cousin Pierron, mais sans le tuer, car son arme lui tourna dans la main. Et sachez qu'ainsi le voulut notre sire, parce que c'est Pierron qui, plus tard, devait convertir le roi païen Orcan et en épouser la fille. De lui descendent le roi Lot d'Orcanie et Messire Gauvin. Siméon et Ganaam furent jugés et condamnés à être enterrés vifs. Mais, durant qu'on creusait leur fosse, voici venir deux hommes vermeils, comme la flamme, qui volaient par les airs aussi légèrement que des oiseaux et qui enlevèrent Siméon. Pour Ganaam, il fut enseveli vivant selon le jugement, et autour de lui on enterra ses frères, chacun d'eux avec son épée, comme il sied à de bons chevaliers. Or, le lendemain, on vit que la tombe de Ganaam flambait comme un buisson ardent, tandis que les 12 épées de ses 12 frères étaient dressées vers le ciel. Ensuite, Joséphée parcourut l'Écosse et l'Irlande, annonçant toujours la vérité des évangiles, et envoyant ses compagnons prêcher, en tout lieu, la sainte loi de Jésus-Christ. Enfin, l'évêque retourna avec son père à Galafort, où il retrouva Galaad, le fils de Nacien, qui avait 15 ans et qui venait de recevoir l'ordre de chevalerie. Et comme ceux du royaume de Ossélis, qui étaient alors sans seigneur, lui demandaient de leur donner un roi, il le leur désigna. Une fois qu'il avait chassé tout le jour, le roi Galaad, le fort, se trouva seul, ses chiens perdus, à la nuit tombante, dans une lande déserte, où flamboyait au loin un grand feu solitaire. Quand il en fut proche, il entendit la flamme l'appeler par son nom. « Galaad, disait-elle, je suis Siméon, ton parent. C'est moi qui blessais Pierron, et à cause de ce forfait, je brûlerai jusqu'à ce que le 9e de tes descendants me vienne délivrer, parce que en lui ne flambera pas le feu de luxure, sa présence éteindra ce bûcher. Mais, en nom Dieu et pour alléger ma peine, je te prie de faire bâtir ici une maison de religion. » Le roi promit, et dès le lendemain, il manda maçons et charpentiers et fonda autour de la tombe de Siméon une abbaye de la Trinité, qu'il protégea toute sa vie. Après sa mort, il y fut enseveli avec son aume, son épée et sa couronne, dans un cercueil d'or, sous une tombe que personne ne lèvera avant celui qui doit mener à bien cette aventure. Et sachez qu'il était tant aimé des hommes de sa terre, qu'à sa mort, ils changèrent le nom de Ossélis pour celui de Galle, en souvenir de lui. Cependant, après avoir sacré et couronné Galaad, Joséphée était reparti pour Galafort. Son père y trépassa du siècle au moment qu'il y arriva. Et il en fut tout dolent et déconforté. Lui-même, il était très faible à force de veiller et de jeûner, de sorte qu'il fut averti que sa mort était prochaine. Avant d'expirer, il voulut revoir le roi Mordrin. « Sire, lui dit le roi Méhénier, quand vous aurez quitté le siècle, il me faudra demeurer tout seul d'amis jusqu'à ma délivrance. Je vous prie, pour Dieu, de me laisser quelques souvenirs de vous. » Alors l'évêque fit de son propre sang une grande croix sur l'écu de Mordrin et lui annonça qu'elle demeurerait toujours fraîche et vermeille à travers les temps. Et le roi aveugle se fit mettre sur les lèvres l'écu qu'il ne pouvait voir et qu'il baisa en pleurant. Chapitre 36. Histoire du Saint Graal. Les riches rois pêcheurs. Le lendemain, Joséphée connut que son dernier jour était arrivé. Il fit appeler son plus jeune frère, Alain le riche pêcheur, qui lui promit de servir le Graal aussi longtemps que l'âme lui battrait au corps. « Beau doux ami, vous serez donc gardien du Saint-Vase après ma mort, » lui dit Joséphée. « Je vous en investis et revais, et quand vous aurez laissé le monde terrestre, vos descendants en seront seigneurs après vous, et en souvenir de vous, ils seront surnommés les riches pêcheurs. » Après la mort de Joséphée, Alain quitta le pays avec le Graal. Il parvint dans un royaume peuplé de sottes gens païennes qui ne savaient rien, hors cultiver les champs. On l'appelait la terre foraine. Là régnait un roi lépreux nommé Calaphe. Alain vint à lui et lui promit qu'il le guérirait, pourvu qu'il fît ce qu'il lui dirait. « Si vous me jurez de me rendre la santé, répondit le roi, vous ne m'ordonnerez rien que je n'accomplisse. » « Roi, abandonne donc la loi sarrasinoise et fais-moi couper la tête si ensuite tu n'es guéri. » Calaphe commanda d'abattre et brûler ses idoles, et Alain lui donna le saint baptême en le nommant Alphazem. Puis il fit apporter le Graal, et dès qu'il l'eut vu, le roi se sentit tout à fait saint. Même, il devint si prud'homme qu'il fit oxyre tous ceux qui ne voulurent pas devenir chrétiens comme lui, de manière que tout le pays fut converti en moins d'un mois. Ensuite, Alphazem donna sa fille à Alain. Puis, pour conserver le Graal, il construisit un fort château qui fut nommé Corbenic, c'est-à-dire Très Saint Vase en chaldéen, dont il le fit roi et seigneur. Et Alain engendra Aminadab, et Aminadab Catelois, et Catelois Manahal, et Manahal Lambor, et Lambor Péléan, et Péléan Pélès, qui tous furent surnommés les riches rois pêcheurs. Du roi Pélès naîtra une pucelle qui passera en beauté toutes les femmes, et elle mettra au monde celui qui connaîtra la vérité du Saint Graal, et achèvera les temps aventureux. Merlin se tut un petit moment, puis il dit encore au roi Artus, « Roi, le chevalier qui occupera le siège périlleux à la table du Graal aura place sur un autre siège vide à une autre table qui sera établie en mémoire de celle de la Seine. Et il t'appartient de dresser cette table, qui sera la troisième, en mémoire de la Sainte Trinité. Tu en auras grand honneur, car il en adviendra de ton vivant maintes merveilles, dont il sera mémoire à travers les siècles. » Artus répondit qu'il en serait fait selon la volonté de Jésus-Christ. « Mais où vous plaira-t-il de fonder cette table ? » demanda Merlin. « Où vous saurez, beaux doux amis, que le souhaite notre sire ? » « Ce sera donc à Carduel, en Galles. » Chapitre 37. Merlin et Viviane. Ayant ainsi parlé au roi Artus, Merlin alla à la petite Bretagne et il apparut à Léonce de Payerne, qui était régent du royaume de Benoïc, et à la reine. Il leur montra un anneau que le roi Ban lui avait confié pour qu'il pût se faire reconnaître d'eux, et après leur avoir conté tout ce qui s'était passé en Carmélide et les prouesses des trois rois, il dit à Léonce de Payerne qu'il lui fallait passer la mer avec autant de troupes qu'il lui serait possible d'en amener, afin d'aider le roi Artus à chasser les Seines du royaume de l'Ogre, et que tel était l'ordre du roi Ban. « Sire, demanda Léonce, en quel lieu devons-nous aller ?» « À la roche Flot de Mer, » répondit Merlin, « et de là, aux plaines de Salisbury, où vous trouverez des princes et des chevaliers de tout pays qui sont venus pour le même dessein. Vous aurez une bannière blanche à la croix vermeille, et ils en auront pareillement. À cela, vous vous reconnaîtrez tous, car beaucoup parleront des langues étrangères. » Léonce dit qu'il ferait ainsi. Et Merlin resta 4 jours entiers auprès de lui et de la reine, qui le festoyèrent très bien. Puis il partit pour le royaume de Gannes. Il y apparut à Farien, qui en était régent pour le roi Bohor, et à la reine. Et il leur fit le même récit et leur donna les mêmes instructions qu'à Léonce de Payerne. Puis il vint au royaume de Carmélide, dont les barons résolurent de se rendre également aux plaines de Salisbury. Enfin, il obtint l'aide du roi de Lamballe et de divers autres rois étrangers. Et ayant ainsi travaillé, il se rendit en la forêt de Brocéliande auprès de Viviane, sa mie. Quand elle le vit, elle fit paraître une grande joie. Et lui, il l'aimait si durement que pour un peu il serait devenu fou. « Beau doux ami, lui dit-elle, ne m'enseignerez-vous pas quelque nouveau jeu ? Et comment, par exemple, je pourrais faire dormir un homme aussi longtemps que je voudrais sans qu'il s'éveillât ?» Il lui demanda pourquoi elle voulait avoir cette science. Mais, hélas, il connaissait bien toute sa pensée. « Parce que, toutes les fois que vous viendriez, je pourrais endormir mon père Dionas et ma mère, car ils me tueraient s'ils s'apercevaient jamais de nos affaires. Et de la sorte, je vous ferais entrer dans ma chambre. » Bien souvent, durant les 7 jours qu'il passa avec elle, la pucelle lui renouvela cette demande. Une fois qu'ils se trouvaient tous deux dans le verger, nommé « Repère de Liesse », auprès de la fontaine, elle lui prit la tête en son giron, et quand elle le vit plus amoureux que jamais, « Au moins, dit-elle, apprenez-moi à endormir une dame. » Il savait bien son arrière-pensée. Pourtant, il lui enseigna ce qu'elle désirait, car ainsi le voulait notre sire. Et beaucoup d'autres choses encore. 3 mots, par exemple, qu'elle prit en écrit, et qui avaient cette vertu que nul homme ne la pouvait posséder charnellement lorsqu'elle les portait sur elle. Par là se munissait-elle contre Merlin, car la femme est plus rusée que diable, et il ne pouvait s'empêcher de lui céder toujours. Enfin, après 1 semaine, il la quitta tristement pour aller où il devait être, et ce fut dans la forêt de l'Épinal, aux environs de l'Ogre. Là, il prit l'apparence d'un vieillard, tout croulant d'âge, monté sur un palefroid blanc, vêtu d'une robe noire et coiffé d'une couronne de fleurs, dont la barbe était si longue qu'elle faisait 3 fois le tour de sa ceinture. Et ainsi fait, il se porta au-devant de Gauvain qui chassait dans la forêt. « Gauvain, Gauvain, lui dit-il, si tu m'en croyais, tu ferais trêve aux cerfs et aux daims, car il vaudrait mieux pour ton honneur faire guerre aux hommes dans la forêt de Sarpenie. » Là-dessus, il s'éloigna si rapidement qu'on aurait pu avoir seulement l'idée de le suivre. Mais à présent, le comte se tait de lui et en vient à parler du roi Lot d'Orcanie. Chapitre 38. Le roi Lot d'Orcanie. Il ne pouvait se consoler du départ de ses fils et d'avoir perdu la reine, sa femme, avec l'enfant Mordré. Il en avait une grande rancune contre le roi Artus, et en même temps, voyant que les Seines continuaient de ravager sa terre et d'assiéger ses châteaux sans qu'il pût les en empêcher, il regrettait de n'être pas en paix avec celui qui l'aurait aidé à les repousser. Quand il sut les fiançailles de Guenièvre de Carmélide, il pensa que, s'il pouvait s'emparer d'elle, il déciderait peut-être Artus à lui faire une bonne paix, moyennant qu'il rendît sa prisonnière. Il vint donc, avec quelques chevaliers, s'embusquer secrètement dans les bois proches de la cité de Caroès, tout prêt à profiter de la première occasion. Et c'est là que ses espions l'avertirent un jour que Guenièvre se proposait d'aller en pèlerinage à une abbaye qui se trouvait justement de ce côté. La pucelle chevauchait en compagnie de ses demoiselles et de Monseigneur Amustan, qui était le chapelain du roi Léogadan, son père, et qui le fut plus tard du roi Artus. Guillaumard, son cousin, l'escortait avec quelques gendarmes, car le pays n'était pas sûr. C'était en juillet, la douce saison où les prés sont bien herbus et où les oisillons font retentir suavement les vergers et les bocages feuillus. La pucelle, qui avait le cœur gai et léger à cause du soleil, s'entretenait avec Monseigneur Amustan et avec les chevaliers et les dames qui l'accompagnaient, lorsqu'une troupe de fer vêtus parut au loin. Aussitôt qu'ils les aperçurent, Guyomar et ses compagnons lacèrent leurs aumes et montèrent sur leurs destriers que leurs écuyers menaient. Puis ils brochèrent des éperons et s'élancèrent aussi vite que leurs chevaux purent les porter à la rencontre des étrangers qui leur couraient su d'autre part, la lance sur le feutre et l'écu devant la poitrine. Les combattants s'entrechoquèrent à grand fracas, et toute la forêt retentit du froissement des lances, puis du heurt des chevaux et des cors, et des coups des épées sur les aumes. Le roi Lot et Guyomar firent merveille. Mais les chevaliers de Carmélide étaient beaucoup moins nombreux que leurs adversaires, si bien qu'ils ne tardèrent pas à se trouver en grand danger. Guenièvre et les demoiselles, qui assistaient de loin au combat, avec le chapelain et les garçons qui conduisaient les sommiers, se désolaient et se pensaient déjà captives, lorsqu'elles virent sortir de la forêt un chevalier tout armé, qui s'arrêta devant Guenièvre et, après l'avoir saluée, lui demanda qui elle était. « Beau sire, répondit-elle, je suis la fille du roi Léodagan, et ce prud'homme et moi, nous sommes en grand danger. » Mais au seul nom de la pucelle, le chevalier avait croisé sa lance sans maudire, et déjà il se précipitait au secours de Guyomar et de ses gens. D'abord, il renverse deux chevaliers. Mais son destrier était fatigué par une longue course qu'il venait de fournir. Aussi, quand le roi Lot vint l'attaquer, le cheval plia sur les jarrets et chut en entraînant son cavalier. L'étranger se relève vivement et tire son épée, qui était plus étincelante qu'une escarboucle. Lot, ayant épuisé son élan, fit tourner sa monture et revient sur lui au galop. Mais le chevalier l'évite, et au passage, d'un coup, il fend le ventre du cheval, qui s'abat lourdement. Le roi tombe si malheureusement qu'il demeure étendu sans plus savoir s'il fait nuit ou jour. D'un bond, l'inconnu saute sur lui. Il lui arrache son aume avec tant de rudesse qu'il le blesse au nez et aux sourcils. Puis il lui abaisse la coiffe du haubert sur les épaules et lui crie qu'il est mort s'il ne s'avoue prisonnier. « Ah, gentilhomme, ne me tue pas !» s'écrie le roi. « Car certes, je ne t'ai jamais rien fait qui mérite la mort. Je m'appelle le roi Lot d'Orcanie, à qui il n'arrive plus que malheur depuis longtemps. Et moi, je suis Gauvin, le neveu du roi Artus. » En entendant le nom de son fils, le roi Lot se remit sur pied et s'avança pour l'embrasser. « Beau fils, je suis le Dolan, le captif, votre père que vous avez abattu. » « Reculez, répondit Gauvin, vous ne serez mon père et mon bon ami qu'après avoir crié grâce à notre seigneur le roi Artus et lui avoir rendu hommage. » À ces mots, le roi Lot tomba en pâmoison, et quand il revint à lui, « Beau fils, dit-il tristement, je ferai ce qu'il vous plaira. Prenez mon épée, je vous la rends. » Gauvin la prit, non sans verser des larmes sous son aume, car il avait pitié de son père et se repentait de l'avoir blessé, mais il gardait de le laisser voir. Et après avoir demandé congé à Guenièvre, il se mit en route vers l'ogre, suivi de son prisonnier et des autres chevaliers qui s'étaient rendus à lui, en même temps que leur seigneur. Chapitre 39. Trêve avec les rebelles. Le roi Artus était à la fenêtre de son palais, en compagnie des rois Ban et Bohor. « Sire, ne reconnaissez-vous pas ce chevalier, sur un destrier noir, qui porte une lance de frêne et un écu d'or et d'azur au lion rampant, sommé de couronnes d'argent ?»«
De vrai, c'est mon neveu Gauvin !»
C'était lui, en effet, qui amenait ses captifs, tous à pied, sauf le roi Lot, sans aume, et les coiffes de leur haubert abattues sur les épaules.
« Sire, dit Gauvin en approchant, voici mon père, qui, grâce à Dieu, vous vient comme à son seigneur crier merci. Acceptez son hommage, car il est prêt à vous le faire. »
Le roi Artus descendit, et le roi Lot s'agenouilla devant lui et lui tendit son épée nue, en disant « Sire, je me rends à vous, faites de moi et de ma terre à votre plaisir. mais Artus le prit par la main droite. « Beau sire, levez-vous. Vous avez été trop longtemps à genoux. Vous êtes si prud'homme qu'il vous faudrait pardonner de bien plus grands méfaits que celui que vous avez commis. Et si même, ce qu'à Dieu ne plaise, je vous haïssais à mort, vous avez des enfants qui m'ont rendu de tels services que je ne pourrais avoir la volonté de vous nuire. » Ainsi fut faite la paix du roi Lot et du roi Artus. Le lendemain, les maréchaux convoquèrent tous les barons présents à l'ogre, et devant eux, en présence du peuple, dans l'église, Lot fit son serment, moyennant quoi Artus l'investit de son fief et jura de le secourir à son pouvoir contre quiconque lui voudrait faire tort. Puis, à la mi-août, il tint une grande cour plénière où il porta couronne, et il y distribua à tous des armes, des palefrois, des joyaux, et or, et argent, et deniers, si bien que sa bonne renommée s'en accrut. Quand 8 jours se furent ainsi écoulés en fêtes et en caroles, le roi Lot partit avec ses 4 fils, sans s'embarrasser de sommiers ni de bagages. Tous 5 montés sur de bons palefrois et faisant mener leurs destriers couverts de fer par des valets à pied. Ils passèrent par le château de la Sapine, les plaines de Roestock, la forêt de l'Épinay sous Carange, la rivière de Saverne, les prairies de Cambenic, et après plusieurs rencontres avec les Seines qui couraient le pays, il parvint à Arestuel en Écosse, qui est la terre la plus ombragée de bocage qui soit. Là, le jour de Notre-Dame, en septembre, ils eurent un parlement avec les princes rebelles, auxquels s'était joint le roi des 100 chevaliers, le sire de l'Étroite Marche et plusieurs autres barons. Et à tous, le roi Lot demanda de faire trêve avec le roi Artus et de marcher avec lui contre les Seines. « Comment ? » fit le roi Nantre, « lui avez-vous rendu hommage ? Ce ne serait point loyauté, car nous nous étions tous jurés de ne pas nous désunir. »« Sire, » répondit Lot, « je lui fis hommage contre mon gré, et le jour même que je comptais lui nuire davantage. » Et il leur conta comment son fils Gauvain l'avait abattu et ne lui avait accordé merci qu'à ce prix. « S'il en est ainsi, vous n'êtes point à blâmer, » dirent-ils. « Plût à Dieu qu'il nous en fût autant advenu. » Et ils promirent de se rendre avec toute leur force aux plaines de Salisbury pour marcher contre les païens. En même temps qu'eux, y vinrent nombre de gens d'armes étrangers. Ceux du roi Clamadieu, du roi Hélin, du duc des Roches, du roi Marc d'Irlande, qui eut pour femme Iseult la Blonde, ceux de Galchaud, le fils de la Géante, seigneur des lointaines îles, et beaucoup d'autres. Ils y rencontrèrent les gens des rois Ban, Bohor, Léodagan, et des princes de la Petite-Bretagne, et tous venaient défendre Sainte-Église. Ils avaient pour enseigne la bannière blanche à croix rouge, mais sur celle d'Artus, que portait que le sénéchal, on voyait au-dessous de la croix un dragon. C'est ainsi qu'une grande armée chrétienne se mit en marche vers la cité de Clarence qu'assiégeaient les Seines mécréants, plus nombreux que les flots de la mer. Hérissée de ses lances, elle était semblable à un bois où les frênes auraient eu pour fleurs des pointes d'acier. Chapitre 40. La guerre des Seines. La première bataille eut lieu devant Garlot. Ceux de Bretagne, qui avaient chevauché toute la nuit, arrivèrent près du camp des Seines, un peu avant le jour. Il faisait une brume épaisse, et bientôt une pluie menue et foisonnante commença de tomber, dont les païens furent mieux endormis encore. Ils furent réveillés par la huée des chevaliers, qui chargeaient à travers le camp, rompant les cordes des tentes, en abattant les mâts, renversant les pavillons et faisant un tel massacre qu'en peu de temps, les chevaux baignèrent dans le sang jusqu'au pâturon. Les enseignes étaient si mouillées que les deux parties ne se reconnaissaient plus qu'à leurs cris. Mais les Seines se rassemblèrent au son de leurs cornes et de leurs bucines. C'est alors que Gauvain tua le roi Isor et lui prit son cheval. le gringalet, ainsi nommé pour sa grande bonté, car il pouvait courir 10 lieues sans que son flanc battît ou qu'il eût un seul poil mouillé à la croupe ou à l'épaule. Mais le roi Ban, le roi Bohor, le roi Nantre, le roi des 100 chevaliers, le duc Escan de Cambenic et Artus, en l'honneur du baiser de Guenièvre, et tous les princes firent merveille. L'armée chrétienne victorieuse s'occupa de relever ses morts et ses blessés qui gisaient parmi le champ, comme brebis égorgées. Puis, à la nuit, bien restaurée, elle se remit en marche. Lorsqu'elle fut toute proche de Clarence, Merlin réunit en parlement les princes rebelles. « Beau seigneur, leur dit-il, le jour est venu de tout perdre ou de tout gagner. Il vous est grand besoin de prier Dieu qu'il défende le royaume de l'ogre, de honte et méchéance. Car si notre sire s'y met conseil, la terre de Bretagne sera aujourd'hui détruite. Et je vous fais savoir que la défaite ne pourra être évitée si vous ne faites votre paix avec le roi Artus. » Il y eut beaucoup de barons à qui ces paroles ne plurent guère, et il ne pouvait en être autrement. Néanmoins, tous vinrent rendre hommage au roi, l'un après l'autre, et reçurent de lui leur fief. Le jour se levait, radieux. Dans l'herbe non fauchée, les chevaux entraient jusqu'au ventre. Les oiseaux chantaient matines dans les arbrisseaux et réjouissaient le cœur des amoureux. Les enseignes d'or, d'argent et de soie voletaient à la brise légère, et le soleil faisait flamboyer l'acier des haumes et des lances, et luire les peintures des écus. Merlin allait en tête de l'armée sur un grand cheval de chasse. Lorsqu'il aperçut les scènes qui s'avançaient à la rencontre des chrétiens, il cria de toutes ses forces « Or paraîtra qui pressera, seigneur, chevalier, l'heure est venue que l'on verra vos prouesses. » Aussitôt les barons lâchèrent le frein et brochèrent des éperons, et ainsi commença la fière et merveilleuse bataille. Le froissement des lances, le heurt des écus, le martèlement des masses et des épées s'étendit jusqu'à la mer. Bientôt l'air fut rouge et troublé par la poussière, au point que les cieux noircirent et que le soleil perdit sa clarté. Quand les chevaliers et les bourgeois qui défendaient la cité de Clarence aperçurent les enseignes blanches à croix vermeille, ils pensèrent que c'était un secours que notre sire leur envoyait. Aussitôt ils sortirent et commencèrent de faire merveille d'armes. Sur l'autre front des Seines, à mesure que l'heure de midi approchait, la force de Gauvain augmentait. Il traversait les rangs ennemis, bruyant et fracassant comme le tonnerre, et quand son épée s'abaissait pour frapper, il semblait que ce fût la foudre. Ses frères l'imitaient, mais Galessin surtout faisait merveille. Autour de lui, les mécréants tombaient comme les blés mûrs sous la faucille. Vers le soir, il était sanglant comme s'il fût sorti d'une rivière de sang. Les Seines étaient plus hauts et mieux armés, mais les chrétiens plus agiles, si bien qu'à la fin, les païens cédèrent. Tous leurs rois étaient tués, sauf Rion, Oréen, Sorbar, Cornican, Murgalan de Trébéan et l'amiral Napin. Poursuivis de près, ils s'enfuirent de toute la vitesse de leurs chevaux vers la mer prochaine, et, non sans que plus de la moitié d'entre eux fussent noyés ou oxys, ils s'embarquèrent sur leur nef, coupèrent les cordes des ancres, hissèrent les voiles en hâte et s'enfuirent où le vent les mena. Chapitre 41. Le mort de jeûne. Or, en revenant de la mêlée où il avait pris grand chaud, Sagremort ôta son aume. Aussitôt il commença de se refroidir, d'où lui vint au cœur une si grande douleur que son visage noircit. Sentant qu'il s'affaiblissait, il pria tout bas Monseigneur Yvain de le soutenir. « Sire, murmura-t-il, faites-moi étendre sur un lit. Sitôt que j'aurai mangé et bu, cela passera. » Mais Sire Gauvain l'avait entendu. Aidé de Monseigneur Yvain, il le porta sur une couche, et là, Merlin lui fit prendre du vin chaud, de manière qu'il se remit bientôt et s'endormit. Car telle était la nature de Sagremort. Lorsqu'il était à jeun, s'il s'échauffait un peu trop, il tombait en faiblesse dès qu'il se refroidissait. Mais cela ne lui arrivait pas souvent. Cependant, les chevaliers s'étaient mis à table et ils causaient de l'accident. Que le sénéchal, qui avait toujours la langue aiguisée à plaisanter et à mal dire, s'écria qu'on pouvait lui surnommer « Sagremort mort de jeûne ». Messire Gauvin le regarda. « Taisez-vous, que !» s'écria-t-il, « et ne dites point de folie d'un si prud'homme et bon chevalier. Il a sa maladie quand il plaît à Dieu, et l'on ne doit pas l'enrailler. S'il est venu servir monseigneur le roi, ce n'est point pauvreté, car il est né d'un empereur, mais hôtesse de cœur. Le roi ne doit point souffrir qu'en son hôtel on se moque de Sagremort, et quiconque le ferait, je le prendrai pour moi. » « Sire, dit Ken, on en raille souvent de plus vaillant que lui, et même on en dit d'assez grosses paroles. S'il s'en fâche, je n'en puis mais, et qui qu'en grogne, je ne m'en soucie. » Là-dessus, messire Gauvin voulut se jeter sur le sénéchal. Yvain, qui était assis à son côté, le retint. Mais Gahurier, courroucé d'entendre traiter ainsi son frère, s'avança et donna un tel soufflet à queue que toute la salle en résonna, et qu'il l'abattit aux pieds de monseigneur Gauvin. « Orgueilleux truand, parlerez-vous encore? Si le roi mon oncle et ses autres prud'hommes n'étaient séants, je vous jetterai par cette fenêtre. » Que voulait se précipiter sur Gahurier, mais messire Yvain et Merlin les séparèrent. Le roi, en colère, s'était levé, et la chambre emplie de chevaliers. Alors messire Gauvin conseilla à son frère de quitter la salle, ce que Gahurier fit aussitôt. Là-dessus, Sagremort arriva, s'informant de ce qu'il y avait. Merlin le prit par la main et le fit asseoir près de lui pour détourner son attention. Mais le roi dit une parole maladroite. « Je veux, déclara-t-il, que rende à Gahurier le soufflet qu'il en a reçu devant moi. » « Sire, répondit sagement messire Gauvin, laissez passer ce jour-d'hui. Demain nous ferons leur paix. Cependant, défendez à votre sénéchal de donner des surnoms à de meilleurs que lui, et qui vous aident à défendre votre terre. » « Qu'y a-t-il donc ? » demanda Sagremort. Merlin dut lui conter l'histoire d'un bout à l'autre, et il ne fit qu'en rire. Mais le roi, irrité contre son neveu, lui répondit que Gahurier avait frappé son sénéchal devant lui par dédain, et qu'il ne saurait y avoir de bonne paix tant que queue n'aurait pas rendu ce qu'il avait reçu. Alors messire Gauvin cria avec colère « Votre barbe passera du blond au gris et du gris au blanc avant que vous avez de moi et de mes frères ce que vous désirez. Comment, diable d'enfer, nous croyez-vous tel que vous puissiez nous humilier devant ce garçon ? Désormais nous reprenons l'hommage que nous vous avons fait, et vous rendons ce que nous tenons de vous, et renonçons à votre service, et tous ceux qui nous aiment feront comme nous. Et si vous avez désir de jouter, en compagnie de votre sénéchal, contre moi et Gahurier, venez dans la plaine. » En l'entendant, Sagremort sauta sur ses pieds. « Attendez-moi, beau sire, » dit-il à monseigneur Gauvin. « Mais avant de partir, je veux dire à queue, devant le roi, que je lui trancherai la tête si je le puis atteindre, et non tant pour ce qu'il a dit que pour ce qu'il nous force à laisser la meilleure compagnie qui soit. » Messire Gauvin, ses trois frères et Sagremort quittèrent ainsi la salle, et tous les chevaliers devinrent sombres et soucieux. Yvain et Galessin furent se concerter à une fenêtre ouvrant sur le jardin et décidèrent de suivre leur cousin. Cependant, Merlin venait au roi, qui s'était assis à côté du roi Brangor, et il le blâma durement. « Comment, diable damné, roi rassoté, voulez-vous perdre vos amis à cause du serment que vous avez fait à Antor de ne manquer jamais à queue ? Et voulez-vous permettre au fils d'un petit vavasseur de dire des folies à vos barons ? Commandez-lui d'aller s'y excuser auprès de vos neveux et de Sagremort, et vous-même, avec les rois Ban, Bohor et Brangor, qui sont présents, allez les prier de pardonner. » Ainsi fut fait. Queux s'agenouilla devant Monseigneur Gauvin et lui tendit son gage. Mais ce fut seulement quand le roi Artus lui-même fut venu demander à son neveu de rester, que celui-ci courut embrasser son seigneur, et que tout fut pardonné et oublié. Alors le roi partagea entre les chevaliers de son armée le butin d'or, d'argent et de pierreries qui avait été fait sur les scènes, les riches draps, les tentes, les destriers, les bonnes armures. Puis il fit Galecin duc de Clarence. Et après 5 jours de fêtes et de joie, ses hauts barons et les princes étrangers le quittèrent à grand amour. Chapitre 42. Mariage d'Artus. Le 6e jour, il se mit en route pour la Carmélide en compagnie des rois Ban et Bohor et de toute sa maison. Il trouva Léodagan qui venait à sa rencontre, et les 4 rois firent ensemble leur entrée à Carroès, dont les rues étaient toutes tendues de riches étoffes et jonchées d'herbes menues. Puis ils allèrent dans la salle du palais où Guenièvre les attendait, qui courut au-devant du roi Artus, les bras tendus, et le baisa sur la bouche devant tous en lui souhaitant la bienvenue. Après quoi l'on alla souper et le mariage fut fixé à 1 semaine de là. Le jour venu, toute la cour se réunit dans la salle semée de joncs, d'herbes vertes et de fleurs qui avaient une très douce odeur. Le soleil rayonnait à travers les verrières quand Guenièvre fit son entrée, conduite par les rois Ban et Bohor. Et le comte dit qu'elle était la plus belle femme et la mieux aimée qui fut jamais. Or, Hélène, son père, la femme de Persidès, le roux du château de Gacheville, et la fille du roi Pélès, le riche pêcheur, qui garda le Graal jusqu'au temps où Galaad fut engendré. Elle avait le visage découvert, sur la tête un cercle d'or, dont les pierreries valaient un bon royaume, et une robe d'or battue, si longue qu'elle traînait à plus d'une demi-toise. Marchant 2 à 2 et se tenant par la main, les fiancés, les rois et leurs maisons, accompagnés des barons du royaume de Carmélide, des nobles dames du pays et des bourgeois, se rendirent à l'église où le mariage fut béni par le chapelain Amustan et où l'archevêque de Brice chanta la messe. On revint au palais et là, après avoir entendu force ménétrier, on s'assit au manger qui fut digne des noces d'un roi. Après le repas, les chevaliers allèrent s'escrimer à la quintaine et tournoyer dans la prairie. Ensuite on remit les tables, puis les convives se divertirent et en jouèrent ainsi que droit était. Enfin on fut à vêpres et, le lit du roi béni, chacun retourna en son hôtel pour dormir. Guenièvre fut couchée par 3 demoiselles qui aidèrent Artus à se dévêtir à son tour. Après quoi elles sortirent. Et il ne demeura plus dans la chambre que le roi et la reine qui s'entraimaient fort et ne finirent de se le prouver qu'au matin, qu'ils s'endormirent bouche à bouche et bras à bras. Chapitre 43. Le château des Mares. Durant 8 jours, le roi Artus mena bonne vie avec sa femme à Carroès. Le 9e, il dit à ses barons de se préparer au départ. Alors, les rois Ban et Bohor lui demandèrent congé de retourner dans leur terre. « Beau doux ami, dit le roi, vous ferez votre volonté, mais jamais je ne retrouverai de si prud'homme que vous êtes. Pourtant, si vous voulez me quitter, je le dois souffrir. » « Beau sire, dirent-ils, il nous faut regagner nos royaumes. » Et les 2 rois s'enfuirent, bien dolents de le laisser. Merlin, qui les aimait chèrement, voulut leur faire conduite. Et c'est ainsi qu'au soir de leur 1er jour de voyage, ils arrivèrent de compagnie devant un château, le plus fort et le mieux fait qu'ils eussent encore vu. il était tout entouré de larges marais et muni de deux paires de murs bien crénelés. Le donjon en était si haut qu'à peine d'un trait d'arc en eût-on pu atteindre la cime. Et il n'avait qu'une seule entrée, où l'on parvenait en suivant une longue et étroite chaussée. Celle-ci aboutissait, du côté de la terre ferme, à un petit pré où se dressait un immense pin, lequel portait, pendu par une chaîne d'argent à l'une de ses basses branches, un corps d'ivoire, plus blanc que neige nouvelle. « C'est le château des Mares, dit Merlin, qui appartient à un chevalier preux et de grand renom, à Gravandin. « Par ma foi, dit le roi Bor, voilà un homme bien logé. Je coucherai volontiers chez lui. » Et saisissant le corps, il y souffla comme un homme de bonne haleine, si fort que malgré la distance, le son courut sur l'eau et d'écho en écho entra dans la salle du château où Agravadin l'entendit. « Mes armes » cria-t-il. Mais durant qu'on l'en revêtait en hâte et qu'il enfourchait son haut destrier pommelé, trois fois encore le son parvint à ses oreilles. Car le roi Bohor sonnait coup sur coup, craignant, tant le marais était large, qu'on ne louît point au château. Le sire des Mares, impatienté, parut sur la chaussée, l'écu au col et la lance au poing. « Quels gens êtes-vous » cria-t-il. « Sire, nous sommes des chevaliers qui vous demandons l'hospitalité pour cette nuit. »«
À qui êtes-vous ? » »«
Nous tenons nos terres du roi Artus. » »«
En nom Dieu, vous avez un bon seigneur, c'est le mien. Suivez-moi et soyez les bienvenus. »«
Grand merci !» Ils s'enfuirent derrière le seigneur des Mares, l'un après l'autre, car la chaussée était si étroite qu'on y eût pu chevaucher à deux de front. Leur hôte les conduisit à travers les cours jusqu'au logis, où des valets et des écuyers les vinrent aider à descendre. Puis, prenant banc et bord par la main, il les fit entrer dans une chambre basse, et là, après qu'on les eut désarmés, vinrent trois pucelles qui leur mirent au col des manteaux d'écarlate fourrés d'hermine noire, toutes trois belles et gracieuses à regarder, mais surtout la fille d'Agravada.
Heureux, pensa Merlin, qui avec une telle pucelle pourrait dormir. Si je ne sentais un si grand amour pour Viviane, mamie, je la tiendrais cette nuit dans mes bras. Je dois la faire avoir au roi Ban. L'enfant qui naîtra d'eux aura de grands destins.
Alors il jeta un enchantement, et sur le champ, le roi et la pucelle s'aimèrent éperdument. Au souper, Agravadin plaça Ban et Bohor entre lui et sa femme, qui était belle et de bon âge, car elle n'avait pas 30 ans. Les chevaliers de la suite s'assirent à d'autres tables. Quant à Merlin, sous l'apparence d'un jouvenceau de 15 ans, aux cheveux blonds et aux yeux verts, vêtu d'une cotte mi-partie de blanc et de vermeil, ceint d'une cordelière de soie où pendait une aumônière d'or battu, il tranchait à genoux devant le roi Ban. Les gens du château le prenaient pour un valet de leurs hôtes, et ceux-ci pensaient qu'il appartenait au château. Mais il était si beau que les pucelles ne pouvaient s'empêcher de le regarder, hormis la fille d'Agravadin, toutefois qui ne quittait pas des yeux le roi Ban et changeait de couleur à chaque instant, car tantôt elle souhaitait d'être toute nue dans ses bras, et tantôt elle se demandait comment une telle pensée pouvait lui venir. Et Ban, de son côté, la désirait éperdument. Mais en même temps, il songeait à sa belle et jeune femme, qu'il ne voulait trahir, non plus que son hôte, en sorte qu'il n'était pas moins angoissé qu'elle. Les nappes ôtées, et quand les convives eurent lavé leurs mains, ils furent s'appuyer aux fenêtres et s'oublièrent à admirer le château et le pays environnant qui étaient beaux à merveille, jusqu'à ce que le temps fût venu d'aller reposer. Les pucelles avaient préparé pour les deux rois, dans une chambre voisine de la salle, des lits tels qu'ils convenaient au prince qu'il semblait être. Et, dès que tout le monde fut couché, Merlin fit un nouvel enchantement, grâce à quoi un sommeil si pesant s'empara de tous les gens du château, Qu'ils ne se fussent pas réveillés quand même le plafond eût croulé sur leur tête. Seuls, Ban et la fille d'Agravadin veillaient et soupiraient, chacun à part soi. Alors, Merlin alla dans la chambre de la pucelle et lui dit « Venez, belle, à celui qui tant vous désire. » Enchantée comme elle était, elle se leva sans sonner mot, vêtue seulement de sa chemise et de son pélisson, et il l'amena droit au lit du roi Ban, qui lui tendit les bras en dépit de lui-même, car il craignait Dieu. Mais elle ôta ses vêtements et se coucha près de lui. Et le comte dit qu'ils se firent aussi belle chair et beau semblant que s'ils eussent vécu depuis 20 ans ensemble, et qu'ils n'eurent aucune honte ni émoi. Ainsi Merlin l'avait ordonné. Ils furent de la sorte jusqu'au jour, et quand le matin parut, le roi Ban ôta de son doigt un bel anneau d'or, orné d'un saphir où étaient gravés 2 serpenteaux. « Belle, dit-il, vous garderez cet anneau et mon amour. » Mais elle prit la bague sans répondre. Lorsque Merlin sut qu'elle était revenue à son lit, il défit son enchantement et chacun s'éveilla. Les sergents et les écuyers préparèrent les armes, sellèrent les chevaux, troussèrent les coffres et les malles. Puis les deux rois prirent congé. Comme la fille d'Agravadin baissait tristement la tête, « Demoiselle, lui dit le roi Ban en lui serrant la main, il m'en coûte de partir, mais où que je sois, je demeurerai votre chevalier et votre ami. » Elle murmura en soupirant, « Sire, si je suis grosse, Dieu m'en donne plus grande joie que je n'en eus de vous, car jamais si tôt amour ne s'éloignèrent. Mais puisqu'il vous faut partir, je me réconforterai du mieux que je pourrai. Et si je vois mon enfant, il me sera miroir et souvenance de vous. » Là-dessus, elle remonta dans sa chambre avec ses pucelles, et les deux rois recommandèrent leurs hôtes à Dieu. Ils passèrent la mer avec Merlin et chevauchèrent tant qu'ils arrivèrent dans la cité de Benoïc, où chacun leur fit fête, et où leurs femmes leur montrèrent grand amour. Si bien que, dans la nuit même, la reine Hélène conçut du roi Ban un enfant qui plus tard eut nom Lancelot. Quant à Merlin, ils le festoyèrent durant 8 jours entiers. Mais au 9e, il prit congé et fut voir Viviane, sa mie, en la forêt de Brocéliande. Chapitre 44. Le lac de Diane. Elle lui fit si bel accueil que l'amour crut en lui et qu'il lui enseigna encore, malgré qu'il en eût, une grande part de ses secrets. Déjà, elle en savait presque autant que lui, et elle l'aimait tendrement. Mais, pour ce qu'elle voulait demeurer pucelle, elle avait fait un charme sur l'oreiller qu'il mettait sous sa tête quand il couchait avec elle, de sorte qu'il croyait la posséder, mais ce n'était que songe. Un jour qu'ils se promenaient tous deux en Brocéliande, il lui demanda si elle voulait voir le lac de Diane. « Certes, fit-elle, rien ne peut être de Diane qui ne me plaise, car elle aima toute sa vie les bois, autant ou plus que moi. » Il la conduisit à un lac qui était grand et agréable, et il lui fit voir sur la rive une tombe de marbre où l'on lisait en lettres d'or « Si J. Faunus, l'ami de Diane, elle l'aima de grand amour et le fit mourir vilainement. Telle fit la récompense qu'il eut de l'avoir loyalement servie. » « Belle amie, dit Viviane, contez-moi l'histoire. » « Volontiers, dit-il. » Diane régnait au temps de Virgile, longtemps avant que Jésus-Christ descendît sur cette terre pour sauver les pécheurs, et elle aima sur toute chose de vivre au bois. Elle chassa par toutes les forêts de Gaule et de Bretagne, mais n'en trouva aucune qui lui plût autant que celle-ci. Aussi vit-elle bâtir, au bord de ce lac, un manoir où elle venait coucher la nuit après avoir forcé les cerfs et les daims tout le jour. Une fois, le fils du roi qui gouvernait ce pays la vit, et la trouvant si preuse, si vive et si légère, il l'aima. Il était encore damoiselle, et beau et franc, au point qu'elle lui promit de se donner à lui, pourvu qu'il jurât sur les saints de renoncer à son père et à tout au monde pour elle. Faunus fit le serment, et ainsi fut-il, durant 2 ans, l'ami de Diane. Mais, après ce temps, elle s'éprit d'un autre chevalier qu'elle trouva, comme Faunus, en courant les bois, et qui avait nom Phénix. Et celui-ci était pauvre et de bas lignage, et il savait bien que si Faunus apprenait ses amours, il le ferait tuer avec toute sa parenté. Aussi vint-il un jour trouver Samy et lui dit « Par ma foi, demoiselle, ou vous vous délivrerez de Faunus, ou je ne reparaîtrai plus auprès de vous. » « Hélas, dit-elle, comment le pourrais-je? Il m'aime de si grand amour qu'il ne me laisserait pour chose du monde. »«
À votre guise, répondit Félix. »
Or, Diane le hérissait si fort qu'elle eût mieux aimé de mourir que de renoncer à lui, en sorte qu'elle se résolut à faire périr Faunus. Cette tombe que vous voyez était alors pleine d'une eau enchantée qui guérissait toutes les plaies. Un jour que Faunus revenait de la chasse, navré d'une blessure qu'une bête sauvage lui avait faite, elle fit ôter secrètement l'eau guérissante. « Que ferais-je ? » demanda Faunus quand il s'aperçut que l'eau n'y était plus. « Je suis blessé durement. » « Ne vous troublez pas pour si peu, » répondit Diane. « Je vous soignerai bien. Couchez-vous là-dedans et nous vous couvrirons d'herbes de grande vertu, par quoi vous serez tôt rétabli. » Faunus s'étendit, mais Diane fit retomber la pierre qui fermait le tombeau, et par un pertuis, elle versa du plomb fondu en telle quantité que le corps de son ami fut consumé en peu de temps. Alors elle vint à Félix, à qui elle conta comment elle s'était délivrée de celui qu'il craignait.
« Mauvaise ! Qui vous pourrait aimer quand chacun vous devrait haïr ? » s'écria-t-il.
Et la prenant par ses tresses, il lui coupa la tête. C'est depuis ce temps qu'on nomme ce lac le lac de Diane. Mais, demanda Viviane, qu'est devenu le manoir qu'elle y avait fait bâtir?
Le père de Faunus le détruisit, sitôt qu'il connut la mort de son fils.
Il fit mal, car jamais l'on ne vit plus beau lieu. Merlin, doux ami, pour l'amour de moi, je vous prie de m'en faire bâtir un, qui soit aussi bel et riche qu'il y en eut jamais.
Elle n'avait pas achevé que déjà maçons et charpentiers travaillaient, et au bout d'un instant, un château s'élevait à la place du lac, tellement magnifique qu'il n'en est point de pareil en toute la petite Bretagne.
« Demoiselle, dit Merlin, voici votre manoir. Jamais personne ne le verra qui ne soit de votre maison, car il est invisible pour tout autre, et aux yeux de tous, il n'y a là que de l'eau. » Et si, par envie ou traîtrise, quelqu'un de vos gens révélait le secret, aussitôt le château disparaîtrait pour lui, et il se noierait en y croyant entrer.
« Par Dieu, belle amie, dit Viviane, jamais on n'entendit parler d'une demeure plus secrète et plus belle. »
Merlin fut si content de l'avoir contente qu'il ne se put tenir de lui apprendre encore plusieurs de ses enchantements. Bref, il lui en enseigna tant qu'il en fut depuis tenu pour folle, et l'est encore, car elle mettait tout en écrit, étant bonne clergesse dans les 7 arts, et elle ne songeait qu'à l'ingénier.
« Sire, lui demanda-t-elle un jour, il y a encore une chose que je voudrais bien savoir, c'est comment je pourrais enserrer un homme sans tour, sans mur et sans fer, de manière qu'il ne pût jamais s'échapper sans mon consentement. »
Merlin baissa la tête en soupirant. « Qu'avez-vous ? » fit-elle. « Ah, je sais bien ce que vous pensez, et que vous me voulez détenir à jamais. Et voici que je vous aime si fort qu'il me faudra faire votre volonté. » Alors elle lui mit les bras au col. « Eh bien, ne devez-vous pas être mien quand je suis votre et que j'ai quitté père et mère pour vous ? Je n'ai sans vous ni joie ni bien. » En vous est toute mon espérance. Je n'attends le bonheur que de vous. puisque je vous aime ainsi et que vous m'aimez, n'est-il droit que vous fassiez mes volontés et que je fasse les vôtres ?»«
Madame, dit Merlin, à ma prochaine venue, je vous enseignerai ce que vous voulez. »
Mais le comte maintenant se tait de lui et de Viviane et retourne au roi Artus et à ses compagnons.